Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Axel Latuada et on boit un jus. Non, on boit du café parce que pour nous, c'est encore le matin. Il est 11h50 et on est au café du matin.
Et oui. Avant midi, nous, c'est le matin.
Ah, c'est le
enfin,
matin
je sais pas
ouf,
vous, mais... Ah, toi aussi
non, mais c'est le matin de
ah,
ouf,
bah voilà, d'accord, ouais. Ok. Non, mais parce qu'il y en a que ça étonne. Et oui, c'est le matin, fort.
Comment ça va, Axel?
Ça va bien, ça va plutôt bien en ce moment. Ouais, ça va bien. Et vous?
Cool, c'est rare d'entendre
oui,
ça en ce
c'est
moment.
Vrai.
Ça fait plaisir.
Bah, restons là-dessus.
Ouais. Merci, c'était super c'était ce podcast, je suis ravi.
Bon bah s'il va bien, il a rien à dire. Alors,
ouais. Ah, mais ça c'est pas faux ça.
Ouais,
des fois quand on a l'impression qu'on a moins de trucs à dire.
Tout à
quand
fait.
On va bien.
Ouais.
Non mais il faut qu'on ait des trucs à dire quand on va bien aussi.
Mais c'est, non mais c'est pour ça qu'on est là.
Ouais, tout à fait.
Et ben on va dire que je vais bien.
On va tout à fait aller bien pendant ce podcast.
OK.
Allez, bon programme. En tout cas, si jamais il y a des nos auditeuristes qui te connaissent pas, on a prévu un petit acrostiche pour faire ta connaissance.
J'adore le mot acrostiche.
Et voilà. Vas-y.
A comme auteur, acteur, réalisateur, humoriste, il fait tout ça et en plus à la base il est monteur.
X comme Xénartre, c'est un mammifère placentaire d'Amérique du Sud. Ça n'a aucun rapport avec lui mais vraiment la lettre X...
Bah, figure-toi.
On s'en est servi pour apprendre quelque chose quoi.
C'est mon animal
peut-être
totem.
Peut-être que ça le qualifie bien, ouais.
Eh.
E comme, et tout le monde s'en fout, la web-série dont il est le visage qui a pour modeste vocation de changer le monde.
L comme lucide sur le monde qui l'entoure, il est engagé à la fois sur l'écologie, le féminisme, l'homophobie, bref, bah, on a quelques points communs avec lui. Et c'est pour ça qu'il est là.
Que je suis là, tout à fait.
Hello.
Mais merci déjà de me recevoir.
Bah, de rien.
Ce que je disais, c'est marrant, c'est toujours ce milieu YouTube machin, on a l'impression de se connaître, alors qu'en fait on s'est jamais croisé.
C'est ça.
C'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit.
Absolument.
On se voit,
alors ça va,
on première
impression, tout ça
c'est... In real life. Moi je te pensais plus petit.
Mais...
Nul
non,
comme
non.
Ah,
là, là. Non, mais tu sais qu'on me le dit souvent.
Ouais.
Parce que je pense dans les vidéos, je suis tassé, puis ce personnage il est un peu en colère, rabougri. Donc ouais, c'est un truc.
Ouais, mais même n'importe qui, je trouve, à l'écran, quand on le voit dans la vraie vie, après il est tout petit. Enfin, c'est ce qu'on se disait, les
mais
gens
le
sont plus
cinéma
que...
est
ouais,
un monde
cinéma,
de gens petits. C'est-à-dire que là, j'ai fait dire la majorité, et là on va recevoir. Genre on reçoit quoi. Les gens vont dire non, lui il est grand, lui il est grand.
Quand tu fais du cinéma, t'es petit, sinon tu rentres pas.
Non, mais il y a un vrai truc, et on l'avait dit à l'école de cinéma, genre c'est la caméra aime les gens petits.
Tu as fait une école de cinéma?
Les cours Florent, c'est pas du tout une école de cinéma, j'ai un petit peu
une section cinéma.
Il y a une section cinéma. On a parlé des Tout le monde s'en fout, parce que c'est quand même ce pourquoi tu es connu, reconnu.
Ah bah c'est quand même ce qui a changé.
Il me semble.
Oui,
voilà.
Complètement,
hein. Il me semble. Comment ça se fait que de monteur, parce que c'est ta formation de base, t'es arrivé à Et Tout le monde s'en fout, et à jouer surtout, à être le comédien. C'est, vous avez fait plouf plouf ou...
On n'est pas loin de ça. Non, en fait, moi, à la base, alors c'est toujours dur de dire je suis. Moi, je gagnais ma vie avec le montage. Mais je me considérais comme auteur et réalisateur. C'est-à-dire que moi, mon but, ça a toujours été de faire des films.
Okay.
Quand je suis arrivé sur Paris à 15 ans, 16 ans maintenant.
Il y a 15 ans ?
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, ouais.
Oui, mais t'es vieux, c'est pas grave.
Ah ouais, oui, c'est ça.
Non, mais c'est
non, okay. Non, mais je vais bien. Ok, tu as pas mon...
Tu ne m'enlèveras pas ça aujourd'hui, d'accord ?
Et donc, je suis arrivé à Paris en me disant, ok, je veux être réalisateur, mais je me disais, c'est pas vraiment un métier, tu vois. Artiste, c'est pas un métier, quoi. Donc, je me suis dit que je gagnerais à trouver un métier de technicien pour gagner de l'argent. Et en fait, le montage, c'est ce que je préférais faire quand je faisais des courts-métrages avec mes potes. Et donc, je me suis dirigé vers ça. Et donc, j'ai gagné ma vie avec le montage. C'est ce qui m'a permis de bouffer pendant presque 10 ans. Et à côté de ça, je faisais des courts-métrages et j'écrivais des scénarios, etc. etc. quoi. Donc, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais en gros, pendant 10 ans, j'ai fait des cours, j'essayais de faire du cinéma. Et un jour, j'ai rencontré mon pote Fabrice. On est devenus les meilleurs potes du monde. Et un dimanche, on se faisait chier. On n'avait plus de projet parce que la vie a fait que les projets qu'on avait mis en place se sont un peu cassés la gueule. Moi, j'avais commencé à faire du YouTube. Alors, moi, je disais, je ne suis pas du tout un consommateur de YouTube. J'ai 37 ans, donc c'est pile poil pas ma génération. Tu vois. Et je regrette un peu ça d'ailleurs, parce que si j'avais su ça à mon adolescence, tu vois, ça aurait changé. Un terrain pour pratiquer la vidéo.
La
quoi.
Réelle,
grave. Et donc, bref, j'avais commencé à faire du YouTube avec un autre pote et on avait fait une petite série qui s'appelait Le jour où j'ai inventé. Un format court, un peu d'humour absurde, complètement différent de Tout le monde s'en fout pour le coup. Et donc je disais à mon pote Fabrice, bah tiens, j'ai vu ce que c'était que YouTube, et justement c'est un truc sur lequel tu peux créer, et tu, comme une bouteille à la mer, tu balances et il y a des gens qui regardent des fois. Et moi, comme je suis un peu hyperactif et que j'ai besoin de faire des trucs tout le temps, je lui disais, vas-y, viens, on... C'était à l'époque de bloquer. Ouais. Et en fait, donc avec mon pote Fabrice, on parlait tout le temps de psychologie. Nos trois sujets phares, c'était la physique quantique, la psychologie et le féminisme.
Bah et comme nous, Justine. Qu'est-ce qu'on parle physique quantique
sans la physique quantique, ouais.
Bon, avec, tout, avec beaucoup d'humilité, hein, genre ça nous fascinait, oui, les trucs qu'on dit, tu vois. On n'y comprenait rien, mais on trouvait ça ouf, quoi. Et mon pote Fabrice terminait ses études de coaching spécialisé en neurosciences
appliquées. On parle de Fabrice Debonnier.
Fabrice Debonnier, absolument. Un des trois auteurs avec son frangin Marc. Et on parlait beaucoup de psycho et de neurosciences et tout machin. Et je lui disais, vas-y, là, on n'a rien à faire en ce moment. On se fout dans un canapé, on se filme et on fait une espèce de truc justement entre le podcast et la vidéo où on discute. Mm-hmm. Et je pense que vu que nos discussions nous passionnent, il y a peut-être des chances pour que ça intéresse les autres, quoi. Mm-hmm. Et il m'a juste dit cette phrase, il m'a dit « Ouais, pourquoi pas, mais par contre, j'ai pas du tout envie d'être filmé. Mm. Si tu veux, je te filme toi. » J'ai fait « Bon, bah, d'accord, pourquoi pas. » Et moi, avec mon autre série, là, le jour où j'ai inventé, j'étais passé de l'autre côté. Mais j'avais très très peur et je jouais. En plus, mon pote était vraiment comédien, Benjamin, avec qui je faisais la série. Donc lui, c'était vraiment un comédien, un mec super drôle, dont c'était le métier, Café et Florent aussi. Et donc moi, je jouais, mais je jouais le gars dans le fond qui dit rien, quoi, parce que je me disais, j'ai pas la technique, j'avais un gros sentiment d'imposteur, etc. Et mon pote Fabrice m'a dit, mais moi, je pense que tu peux le faire. Et il m'a juste dit cette phrase, et ce que je dis, c'est que quand quelqu'un que t'estimes à ce point-là te dit « je pense que tu peux le faire », en fait, ça m'a donné des ailes et je me suis dit « ok, vas-y, s'il me dit que je peux le faire, c'est qu'il doit avoir raison, quoi ». Et on a écrit l'épisode sur les femmes parce qu'on a choisi le sujet qui nous tenait le plus à cœur. Et en fait, un peu comme... Parce que moi, je suis un gros feignant aussi. Et
hyperactif feignant.
Ouais.
C'est souvent les artistes sont beaucoup comme ça.
Tu fais beaucoup d'un coup, après tu fais rien. Beaucoup d'un coup.
Ouais. Bah, l'intermittence. Le principe même d'être intermittent.
La vache, ils ont bien réfléchi le truc. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on va traiter le sujet sur lequel on a le moins de taf à faire, dans le sens où on a le plus d'informations.
Mais comment ça se fait d'ailleurs? Parce que vous êtes deux mecs, oui. Et votre sujet de prédilection, ça a été les femmes. C'est effectivement la première vidéo et tout le monde s'en fout.
Ouais, ouais, bah
et le féminisme, comment ça se fait? Ça peut paraître un peu cocasse.
Mais en plus, toi, c'est tout le paradoxe de tout le monde s'en fout, c'est que ce qu'on dénonce dans le premier épisode, c'est-à-dire l'invisibilisation des femmes, c'est ce qui nous a fait connaître. C'est parce qu'on était des garçons et qu'on parlait de féminisme, parce que oui. Ce qu'on dit dans l'épisode, il y a des millions de femmes qui le disent depuis bien longtemps, tu vois, avant que nous. Mais juste là, on était des mecs, et on parlait de ça, donc ce qu'on disait, c'était important, parce qu'on était des mecs. Donc, tu vois, c'est le paradoxe.
Vous saviez ça, ou pas? Ou t'en as pris conscience après? Au final,
le succès venant, on s'est dit, c'est quand même fou. On s'est dit, ok, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Alors, aujourd'hui, je vois à peu près avec du recul ce qui a fait qu'on a eu du succès tout d'un coup. Parce que c'est vraiment c'est la vraie histoire de success story qui commence dans une cave et qui fait un buzz, quoi. Je pense que ce qui nous est arrivé à l'époque, c'était il y a 5 ans, ça va, tu vois, c'était pas il y a 40 ans, mais ça n'arriverait plus trop aujourd'hui parce qu'on était pile poil. Ouais. Il y a eu un truc de chance aussi.
Le
tu
timing
vois.
Était ouais. tout à fait.
Oui, je me dis qu'aujourd'hui, ouais. effectivement, deux mecs, même trois, parce que vous êtes avec Marc, ouais. Qui sortent une vidéo qui s'appelle Les femmes. Peut-être. Mmh. Peut-être que c'est moins...
On serait moins percutant.
Mais par contre, là où t'as raison, et c'est pour ça que je trouve moi-même, je suis dans le paradoxe, c'est-à-dire que je sais que ce sera quand même plus écouté, effectivement, et notamment par les hommes, puisque ce sont des hommes qui vont leur parler, tu vois. Et du coup, c'est un truc un peu paradoxal où je trouve pas trop la solution, quoi.
Est-ce qu'il y a une solution? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est de plus en plus entendu, mais peut-être des fois je me dis ouais mais mec tu vis dans une sphère toute petite, tu vois, c'est faire attention à son propre microcosme, mais et des fois tu te reprends
non
la
mais c'est
la...
c'est un sujet de plus en plus entendu, mais par contre on vit dans une sphère, les deux
c'est vrai,
les deux sont vrais.
Et donc pourquoi ce sujet en fait? Donc Fabrice et sa femme Laura ont monté il y a des années une association qui s'appelle Chahuteuse. Je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà entendu parler.
Non.
C'est une association féministe qui de sexualité positive.
Okay.
Donc qui crée des ateliers sur apprendre le consentement, tu vois, il y a pas du tout de pratique sexuelle, mais c'est autour de la
c'est des ateliers de sexe.
Non mais
de
mais pratique sexuelle. Bah il y a des assos, à Paris qui font ça, parce que Paris c'est une grosse capitale du mouvement sexe positif.
Oui, OK.
Donc il y a plein d'assos qui font des vrais ateliers de pratique, mais les chahuteuses, c'était vraiment l'idée, c'est plus de la psychologie et des ateliers de, et en fait au final ce que tu apprends dans les ateliers chahuteuses, c'est beaucoup le consentement. C'est beaucoup, tu vois, y a, par exemple, il y avait un atelier, c'était les soirées tendresse et pyjama. C'était, donc il y avait une heure d'atelier, donc n'importe qui pouvait s'inscrire. Et c'était une heure et demie d'apprentissage, apprendre à dire non, apprendre à recevoir le non, apprendre à communiquer de manière, enfin sans les mots, tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, il y avait une heure d'un espace où tu peux faire des câlins, où il n'y a pas de sexe pour le coup. Et c'est un endroit où tu pouvais apprendre à canaliser l'énergie sexuelle et à comprendre qu'elle n'a pas sa place ici. Et notamment pour apprendre aux messieurs, hein, ça n'a pas de place ici, tu vois. Et moi, j'en ai fait beaucoup des ateliers comme ça où j'étais, on appelle félin, c'est-à-dire que tu gères et tu regardes, tu fais attention que les gens, tu fais partie du safe space. Safe space, c'est chiant à dire, dis donc. Et il y avait beaucoup, notamment de femmes qui venaient nous voir à la fin en nous disant... c'est fou, c'est la première fois que je peux faire un câlin à un homme sans qu'il y ait quelque chose...
Sans penser que je dois lui donner plus ou qu'il va vouloir plus.
Ouais. Exactement. Et moi, c'était ouf de faire ce genre de découvrir un aspect humain.
Mais est-ce que c'est les gens qui s'y inscrivent, c'est pas des gens déjà convaincus, au final ?
Il y a un peu... Alors, ce qui est bien avec les chahuteuses, alors ça fait longtemps que moi, j'y suis plus allé, mais c'est que
ça
justement...
Ça existe encore, là.
Ça existe encore, il y a moins d'ateliers, il y a...
Covid.
Bah, Covid. Peut-être déjà.
Des câlins, oui.
Oui. C'est vrai que c'est pas l'ambiance.
C'est pas le plus approprié là, en ce moment, malheureusement.
Mais non, c'est justement l'idée des chahuteux, c'était d'ouvrir ça à un public moins averti. Je pense que. Faut pas être hypocrite quand tu t'inscris à un atelier chahuteuse. Il y a une espèce de truc, ok, c'est un peu. Ça parle de sexualité, donc il y a des attentes, je pense. Mmh. Et justement, c'est un peu l'appât aussi et d'apprendre. Apprendre à ce que c'est que le consentement, ça passait par ça, quoi. Et donc, tout ça pour dire que Laura et Fabrice avaient cet assaut. Et en fait, quand j'ai rencontré Fabrice, il y a eu un espèce de coup de foudre amical et de « Ok, un homme que je trouve pas toxique. » Parce que oui. Moi, j'avais un rapport aux garçons très compliqué. Je m'entendais pas avec les mecs, je comprenais pas leur centre d'intérêt. J'ai vraiment subi la masculinité toxique.
Dans la vie en général, enfin depuis toujours.
Ouais. Ah ouais. Moi je suis un peu. J'allais dire autiste, mais c'est pas le mot, c'est pas vrai. Mais je suis un phobique social moi à la base. J'ai très très peur des gens.
Et particulièrement des hommes.
Ben en fait, je suis hétéro donc j'ai très très peur des femmes parce que j'étais hyper timide et tout. Ouais. Et je comprends pas les mecs, donc je trouve pas intéressant, tu vois.
T'es jamais retrouvé dans...
Non.
Dans ce qu'on attend des hommes.
Ouais, vraiment pas. Et j'ai eu la chance, notamment au collège, de croiser un pote qui était un peu dans le même mood et qui était aussi très créatif. Et donc, on a eu un espèce de truc fusionnel, artistique, qu'on a créé pendant des années. Et ensuite, j'ai retrouvé ça avec Fabrice. Et donc, Fabrice, qui était très impliqué dans le féminisme... De par nos discussions, et moi, le féminisme, je connaissais pas trop, voire même, j'étais un peu contre.
Bien sûr, mais c'était 2017 aussi, nous-mêmes un peu avant, du coup.
Et nous aussi. Hein.
Ah ouais.
Ah oui, complètement. Oui. Je suis admirative des femmes ou des hommes, mais surtout les femmes, qui se revendiquent féministes depuis toujours. Je trouve ça génial, enfin, parce que moi, c'était pas mon gars, clairement.
Ça fait peur, le militantisme, ça fait peur.
Oui, c'est ça. Oui, la case, quoi.
Attention, c'est pas pour nous donner des excuses, mais on a toutes les excuses du monde. Tout a été fait dans la société pour nous donner l'impression que c'était une mauvaise chose, que c'était les méchantes, voilà.
Et que c'était contre les hommes, surtout. Ça, c'est... Et en fait, c'est juste en apprenant à découvrir ce milieu, et en fait, j'ai compris que les valeurs que j'avais vraiment au fond de moi, elles étaient pro-féministes. Donc je me suis dit, ok, ça me va. Et d'ailleurs, pendant des années, je me disais, ok, je suis féministe. Et un jour, il y a Marc de Bonny, qui est notre co-auteur et qui est journaliste, nous a dit, les gars, en fait, on n'a pas le droit de dire qu'on est féministe. Je fais quoi ? Comment ça ? C'est pas possible, putain, machin.
Non, c'est...
Et après, il a expliqué, j'ai compris. Effectivement, tu ne peux pas t'approprier un combat qui ne t'appartient pas. Donc, alors, c'est que des mots, mais les mots, c'est important, tu vois. C'est
important, mais il n'y a pas non plus énormément de femmes qui, en vérité, vont... Si toi, tu vois, tu me dis, je suis féministe, ça ne m'énerve pas du tout. Ça ne me choque pas.
On n'en est pas là, malheureusement, on n'en est pas à ce point-là, tu vois. Si on en était là à se dire, bon, est-ce qu'on a le droit de dire, ça veut dire que tout le reste est réglé.
En fait, c'est que très souvent, vous l'êtes profondément. C'est-à-dire que c'est justement plus les hommes qui disent, je ne peux pas trop dire que je suis féministe parce que je ne peux pas m'approprier ce mot, je me dis, ok. C'est vraiment qu'il est féministe, tu vois. Parce que si t'en es à ce point de déconstruction et de réflexion, c'est que, voilà, c'est...
Le problème, c'est plus les mecs qui disent « Moi, je suis vraiment féministe hein. !»
Je fais la vaisselle, des fois.
Oui, voilà. Ah, ouais. Ouais. Ouais, je sais qu'il ne faut pas violer. Ah. Merci, Michel. Trop cool.
Mais c'est en sécurité, maintenant. Ouais. Non, et puis c'était pourquoi ce premier épisode là-dessus ? Parce qu'en fait, il y avait un vrai sentiment profond d'injustice et de en fait, ça ne va pas du tout. On devrait tous être en train de gueuler, tu vois. Donc, et le tourner avec de l'humour en parlant aux hommes comme s'ils avaient 4 ans, c'est un truc qu'on faisait entre nous, tu vois, et qu'on se disait, faut pas qu'on fasse ça dans la vraie vie, sinon le message va jamais passer. Et donc, on s'est dit, bah, viens, on le met dans une vidéo, on crée un personnage. Donc, comme c'est un personnage de fiction, il y aura du second degré, donc du recul. Et donc, le message sera peut-être plus facile à être entendu. Et puis voilà. Et puis, je te dis, c'était un truc de feignant. On s'est dit, oh, vas-y, on traite le sujet qui nous tient le plus à cœur parce que du coup, on va le faire bien. Et sur lequel on a le plus de trucs à dire. Mm-hmm. Comme ça, on n'a même pas eu à aller faire de recherche, tu vois. C'était nos discussions quotidiennes. Donc, on l'a écrit, ça a été très facile à écrire. Et puis ça nous a fait du bien aussi, tu vois, parce qu'entre nous, on rigolait de ça en se moquant des hommes, parce qu'on est en colère, tu vois. Enfin, moi, je suis en colère contre les hommes.
Moi, non, je les adore. Moi, j'ai pas le droit de le dire, ça fait pas pareil,
tu vois. Ouais, ça fait pas pareil. Ouais.
Donc c'était aussi un exutoire, ça nous a fait du bien, et ça nous a fait rire, surtout on voulait juste se faire rire, tu vois. On voulait pas. On pensait pas du tout que ça marcherait à ce point-là.
Ça a marché tout de suite ?
Ah ouais, c'était fou.
Ouais, ça a pris direct, je me rappelle. Bah, nous, c'est comme ça qu'on t'a connu.
Oui.
Bah, c'est grâce à auféminin.com.
Ouais, qui nous ont repartagé.
Ouais, en fait, on l'a mis sur YouTube, on l'a envoyé à nos potes, on a eu 3000 vues, on était comme des fous. Mmh. Et puis je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même un truc avec un message, enfin, c'est important. Je me dis, peut-être qu'il y aurait des magazines, des magazines féminins ou féministes qui pourraient nous relier. Donc j'ai cherché et j'ai juste vu sur la page Facebook d'auféminin.com, envoyez-nous vos vidéos à telle adresse.
Ouais. Ah, c'est marrant, nous, elle ne voulait jamais nous partager.
C'est vrai ?
Ouais. Je vois très bien ce mail. Ouais, nous aussi, on leur a envoyé pas mal de vidéos.
Ouais.
Mais elle préfère partager les garçons au féminin.
Non, c'est malheureusement. Hein, c'est...
Bah, après, votre vidéo est formidable. Hein, c'est pas.
Ouais, bien sûr. Et est-ce que ça a engendré des haters, cette vidéo, ou pas ?
À ton avis ? Quel genre de haine ?
Ouais, voilà, quel genre de haine.
On s'est fait traiter de collabo.
Oui, évidemment.
Ouais, bah ouais. C'est la haine. En fait, c'est pire. Je pense que dans le sens, pas minimiser, je pense que les mecs se sont sentis trahis.
Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est une autre forme de haine, quoi.
Ah ouais, Et je pense que c'est une haine qui est du coup peut-être plus forte parce qu'il doit y avoir un sentiment de merde. Vous êtes contre nous.
Ouais, en fait. Je me fais bolos par ma propre team, quoi. Ils doivent se dire.
Mais c'est oui. En fait, c'est complètement différent. Nous, c'est le physique. Quoi qu'on dise, c'est avant tout notre physique. Quoi qu'on dise. Et en fait, je me dis, là, vous, c'était sur le fond, même si c'est abject.
Ouais, il y avait tout. Mais ouais. On nous a dit beaucoup, non, mais vous faites ça que pour pécho.
Évidemment,
c'est leur excuse.
Ça, c'est l'argument de base. Tu vois, ça n'est pas possible que vous fassiez ça pour autre chose que de pécho, tu vois.
Vous mettez les meufs dans la poche. Genre. Ouais.
Et du coup, vous avez pécho.
Mais
ceci dit, message aux mascus qui nous écoutent, genre il y en a.
J'adorerais
aussi, mais j'ai envie de vous assure qu'on a beaucoup plus envie de pécho. Effectivement, quand on sait qu'ils le font pas pour ça, mais on a envie de pécho. Les mecs féministes, désolé de vous le dire, votre masculinité alpha toxique, on en veut guère.
Mais tu sais que je pense vraiment qu'ils écoutent. En revanche, parce que c'est une vraie. Moi, je me suis un petit peu renseigné sur les mascus. C'est chaud, c'est dangereux.
Ils sont
milice, quoi, franchement. Ouais. Et ils sont à donf.
Ils n'ont pas de travail, ils ont du temps comme ça.
Ils n'ont pas des enfants.
Non, c'est fou. Ouais, c'est clair.
Ah, c'est quand même terrible.
Ils ont vraiment beaucoup de temps. Mais oui, ça fait partie de la stratégie masculiniste que d'infiltrer les milieux féministes.
Ouais, écoutez bien.
Des discussions, des podcasts, des vidéos.
Puis de créer des commentaires, ils donnent des rendez-vous.
Bien sûr, des raids.
Les raids, c'est chaud, quoi.
Ouais, les raids, c'est quelque chose.
Ils sont organisés. Si vous mettiez cette énergie dans autre chose, franchement, le monde irait.
T'imagines s'ils mettaient leur énergie. Avec nous, en fait.
Mais avant de le mettre avec
chose,
vous, mais qu'ils la mettent pour eux, pour aller bien. Parce que pour moi, ça veut dire qu'il y a un profond mal-être d'avoir tellement besoin de s'affirmer à ce point-là et d'être contre la moitié de l'humanité. C'est qu'il y a un manque de reconnaissance, il y a une blessure à l'intérieur. Et presque, quand tu prends du recul, ils sont mignons.
Il faut à l'unité.
T'as envie de leur dire oh là là, mais mon pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'étais petit pour être dans cet état-là, tu vois. Alors,
il y a beaucoup de manque d'empathie aussi chez ces gens-là, de gros regards sur eux, c'est-à-dire qu'il suffit que eux aient un malheur ou quelque chose pour lequel ils se sentent discriminés, qui est très souvent comme c'est quand même le masculin, c'est beaucoup de petits mecs blancs. On est vraiment sur des discriminations. Tranquille, tu vois. Mais genre s'ils ont de l'acné, je dis ça, j'en sais rien, tu vois, ou un peu de kilos en trop, des trucs. ou ils sont nuls au foot, ou j'en sais rien quoi, tu vois, mais ils ont vraiment ce truc de... Attendez, mais moi, je suis malheureux à cause de ça. Donc pourquoi vous parlez pas que de mon malheur à moi ?
Ouais, bah, ça,
parce que frère, désolé, mais c'est rien. Après, t'as le droit de pas aller bien. Et comme tu disais, dans ce cas, va voir un psy, fais du développement personnel pour apprendre à t'accepter avant de penser que c'est toujours à faute des autres.
Ouais, ouais.
Enfin,
ça c'est bien dit, hein, Camille.
Ouais. Et pan dans les dents. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, mascu ?
Mais tu sais que du coup, nous, par rapport à ça, les sujets féministes, dans Tout le monde s'en fout, c'est un truc qui est revenu souvent. On en a fait 4 ou 5, je crois, tu vois. On a fait les femmes, on a fait la culture du viol, on a fait le féminisme, on a fait les hommes. Et à chaque fois, on est de toute façon un peu condescendant. Bon, c'est le truc de base, on est condescendant avec tout le monde, mais on l'est d'autant plus avec les hommes, parce qu'on est en colère, tout ça. Et en ce moment, depuis un petit moment, on se dit peut-être qu'on se trompe, justement. Peut-être que, puisque c'est... C'est-à-dire, parler aux gens qui sont déjà acquis à la cause, c'est facile. C'est facile que les gens soient d'accord avec toi quand ils pensent déjà la même chose que toi. Maintenant, le but, c'est quoi ? C'est de prouver qu'on a raison et donc de se rassembler entre nous, de dire on a vachement raison. Hein. Ou est-ce que c'est de faire changer les gens qui pensent pas comme nous ? Déjà, cette phrase est merdique, tu vois.
C'est un très grand sujet, là.
Donc peut-être qu'il faudrait essayer de leur parler... correctement et peut-être d'essayer de les comprendre, tu vois. Après, pour moi, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je dis pas le mouvement. Moi, en tant qu'homme blanc, hétéro, cisgenre, ma responsabilité, c'est mon groupe social. Donc, c'est les hommes blancs, hétéro, cisgenre.
Bien sûr.
Donc, si je me moque d'eux et si je leur dis vous êtes vraiment teubés, vous avez rien compris, bah, en quoi j'aide la cause, tu vois, en quoi je vais dans le sens où je vais aller, quoi. Donc,
C'est vrai, mais en même temps, on leur donne en fait vachement d'attention, alors que, et c'est un truc dont on a parlé il n'y a pas très longtemps dans un entretien avec le magazine Femmes Ici et Ailleurs.
Et dont on parle très souvent entre nous depuis le début.
Et c'est ce truc de leur donner déjà beaucoup d'attention, alors que je pense quand même que c'est un noyau, c'est-à-dire que je parle du fond de tiroir mascu, pas du milieu de gamme, parce que le milieu de gamme, je pense, est très touché par dès qu'il y a une pointe d'humour et donc par ce qu'on peut faire, ça peut marcher. Et de toute façon, on le voit dans les commentaires, vous m'avez fait évoluer là-dessus, j'ai évolué là-dessus, je suis pas toujours d'accord, mais ça va, c'est cool. Maintenant, le fond du panier mascu, qui sont donc pas si nombreux, mais juste très organisés, est-ce que vraiment faut continuer à leur donner de l'attention ? Et l'autre fois, moi, je suis arrivée au le fond de ma pensée en ce moment, c'est je pense qu'il faut vraiment les marginaliser, il faut vraiment leur faire comprendre qu'en fait, aujourd'hui, en 2022, c'est pas ok. Il n'y a même pas de discussion à avoir. En fait, j'aimerais arriver à cet état-là, ce qui est, j'arrive pas toujours, parce que je me fais encore embarquer dans des conversations qui me mettent mal et dans lesquelles j'essaie d'argumenter. Et à la fin, je me dis, mais
pourquoi
comment j'ai pu donner autant d'attention et comment ça se fait que je fais des arguments.
Ne bougera pas de place. Hein.
Puis je fais des arguments intelligents, j'essaie d'avoir des chiffres, j'essaie, tu vois, d'avoir une réflexion qui me tient à cœur depuis des années. Et en face, juste un mec qui me dit des bêtises, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, j'ai envie de vous marginaliser. Et je pense. Tu parlais de la responsabilité au sein de notre groupe auquel on appartient, et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que du coup, éventuellement, dans la vie, je pense que si on arrive de plus en plus à ça, quand on entend des réflexions racistes, homophobes, sexistes, etc., juste de dire, en fait, stop, ça, non. Moi, quand je suis là, non, je veux pas t'entendre. Et si on est de plus en plus nombreux et nombreuses à réagir comme ça, peut-être, je me dis, ça peut leur faire comprendre que faut qu'ils se recachent. Parce qu'avant, ils étaient un peu plus cachés et on s'emportait mieux quand même, tu vois.
Oui, comme...
c'est ok d'être raciste.
Ouais, ouais, c'est
voilà, on est revenu dans ce monde où c'est ok. Non, remarginalisons ces gens-là, vraiment.
C'est plutôt la honte.
Voilà.
Normalement,
c'est la honte. Après, c'est compliqué. Toi, je te dis ça, oui, machin, il faut être hyper aligné et tout. Et en même temps, en fait, on a des émotions. Et quand t'es face à quelqu'un de teubé, c'est chaud de pas.
Ça dépend tellement de ton humeur, ça dépend tellement des jours, ça dépend. En fait, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu que je pense que tu peux pas adopter un truc général sur comment t'adresser à ces gens-là. Et même nous, on fluctue complètement entre insulter les gens et leur parler avec humour et leur parler avec douceur. Enfin, vraiment, on passe de l'un à l'autre très très régulièrement.
Je pense qu'on se pose trop de questions pour en fait un groupe de gens qui. Pardon, mais n'en vaut pas la peine. En fait, je suis désolée, mais vous comprenez rien, vous comprenez rien. Enfin, à un moment, je vais pas vous dire. Pourquoi c'est important de respecter les autres êtres humains ? Enfin, on en est là, quoi.
Surtout, je me dis, tu vois, à ce moment-là où tu dis, putain, là, je suis en train de dépenser de l'énergie et tout, et je veux absolument convaincre cette personne, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où... Est-ce que la personne que tu essaies de convaincre, c'est toi ? Parce que tu vois, si à un moment donné, si tu mets tellement d'énergie, ça veut dire que, dans un sens, tu doutes peut-être un peu de ce que tu dis, et cette personne-là te fait dire, merde, si ça se trouve, j'ai pas totalement raison. Donc le fait de réussir aussi à arrêter et de te dire ok bon ben là je vais pas dépenser de l'énergie pour faire ça, c'est que t'es ok aussi avec toi-même, tu vois. Donc le fait de ramener à soi, je pense, ça peut aider justement à sortir de ce truc de d'être le bourreau puis d'être la victime et de être le bourreau, etc.
En fait, c'est ça, c'est exactement, c'est, je pense, être sûr qu'on est dans notre bon droit et que désolé, nous on l'a déjà dit plusieurs fois et à chaque fois on se fait tacler quand on dit ça dans les vidéos, mais on est du bon côté. Enfin, on a cette persuasion et en fait, j'ai pas envie que ce soit une persuasion, j'ai envie que ce soit la vérité, c'est-à-dire que avoir envie de se battre pour que les gens aient les mêmes droits, je pense fondamentalement que c'est être du bon côté et donc. Même pas juste dire aux gens, je vais pas perdre mon énergie, mais juste lui dire, en fait, ce que t'as dit, c'est de la merde. Et renseigne-toi par toi-même, et t'as tort, et je veux pas t'entendre dire ça, ouais, et point.
Mais quand on dit ça dans les vidéos, ça déplaît tellement. Quand on dit, non, mais en fait, on a raison, et on est du bon côté, les gens sont là, ah, donc Camille et Justine, la ça binarité, c'est le bien et le mal.
Mais
quoi.
C'est comme si on avait
c'est
dit,
un peu le bien et le mal, les gars.
Mais eux, ils le prennent comme, on sait tout. Mais c'est pas ça qu'on a dit. On a juste dit, on est du bon côté, on a plein de choses à apprendre, et parfois, on dit des trucs maladroits.
On sait pas tout, d'ailleurs.
Mais on. On a envie, enfin, de toute façon, on essaye d'être du bon côté, donc à partir de là.
Enfin. Ouais. Mais c'est que ça fait tellement film, quoi, bon côté, mauvais côté, que les gens adorent le reprendre comme argument de les gentils et les méchants. Hein, mais t'es là, mais.
Mais t'es raciste, t'es méchant. Ouais, enfin, désolé. Mais...
enfin, je veux dire, c'est vrai, si t'es raciste, t'es méchant, mais clairement.
Ouais, je sais.
Il n'y a pas de bon raciste.
Ouais, grave, ça va.
Il n'y a pas de racisme bienveillant, ça n'existe pas. Oh là là. C'est comme hier, je lisais, ça n'a rien à voir, mais ça me fait rire. C'est, je lisais des trucs sur Elon Musk et Jeff Bezos. Et
oh, c'est gentil.
Jeff Bezos essaye de rendre l'humain immortel. Et je disais, mais tu le vois que dans toutes les histoires de. C'est le projet du méchant.
Ouais.
C'est le, si on lit tous les films, tu vois, c'est ce qu'il veut faire. Non, mais moi, c'est pas pareil. Non, et ça, c'est ce que dit le méchant dans les films, en fait. C'est su, c'est tu vrai. Vois, normalement, c'est bon, c'est su, quoi.
Ah oh, la vache. Tellement le méchant.
Ah là là.
Mais il veut pas rendre l'humain immortel, il veut rendre lui-même
oui, peut-être que c'est
immortel.
Pour lui,
je suis pas sûr qu'il pense aux
c'est
autres.
C'est pas un altruiste, non, je pense pas que ce soit un grand philosophe.
Ou quelques petits potes, quoi.
Oui, mais pas. Entre nous.
Enfin, oui,
entre
ils nous, vont quoi. Se refiler le tuyau à la rigueur, Bezos et Elon Musk. Tu vois, ils vont dire, allez, je te file un peu de ma seringue.
Entre nous, les tout-puissants, quoi. Mais le reste, bon. Oh,
entre nous, ça, quatre.
Vraiment, genre.
Les hommes blancs.
Oui.
Riche.
Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez jamais. Que vous traitez pas?
Bah, tu sais. À partir du moment où on a fait la religion, la prostitution des mineurs,
oui, c'est pour ça, ouais.
Les hommes, tu vois, la guerre, le racisme. En fait, non, il n'y a pas de sujet. On s'est jamais dit ce sujet-là, on le traitera jamais. On s'est dit ce sujet-là, on va prendre du temps.
Ouais. Ok.
Notamment, je donne souvent l'exemple de la religion parce que, bah, voilà, c'est un sujet chaud. Et donc, on a mis du temps à le faire. Et justement, parce que moi, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur la religion? Sans être binaire, sans dire moi je trouve que c'est de la merde et machin, ça. Je voulais être plus, prendre plus de recul que ça. Et,
parce que t'es athée?
Ouais, ou je suis même anticlérical, moi. Okay. À la base, je suis d'une en fait. Famille okay. communiste, tu vois, avec des grosses valeurs anticléricales. Genre, mon père refuse de rentrer dans une église, donc moi, par mimétisme, j'ai refusé de rentrer dans une église toute mon adolescence. Et j'étais contre, mais je savais pas trop pourquoi, tu vois. Enfin, je savais pas trop pourquoi. Je voyais bien que. C'était contre mes valeurs, tu vois. Enfin, contre mes valeurs. C'était pas très aligné avec mes valeurs. Bon, aujourd'hui, je me suis un peu assagi là-dessus. J'ai découvert aussi la spiritualité, donc j'ai découvert ce qu'il y avait derrière la religion. Je trouve que le dogme religieux, je trouve que c'est toujours de la merde, tu vois. Et j'ai toujours un peu de mal avec les églises. Il n'y a pas longtemps, j'ai été au baptême de mon petit-neveu, ma petite-nièce. Et
j'ai pris feu.
C'est impressionnant, hein. Non, j'entendais le curé parler.
Pas archi à l'aise.
Non. J'ai dit à mon père, je comprends que tu ne sois pas rentré. Bref. Et donc, quand on a parlé de la religion, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Et pour revenir sur ce qu'on disait avant, tu vois, sur le fait de convaincre les autres, je me suis dit, OK, le problème, c'est que quand tu as besoin que tout le monde soit d'accord avec toi et croit la même chose que toi, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu crois. Donc, juste, vas-y, crois en ce que tu crois dans ton coin. Et c'est OK. Moi, si tu crois des trucs, si tu viens pas me forcer à les croire, tant que si ça te fait du bien et que ça fait de mal aux autres, c'est OK, tu vois. Et donc, c'est ça un peu qu'on dit dans la religion, c'est entre autres. Donc,
parce qu'à travers l'histoire, la religion, ça fait du mal à quelques personnes.
Voilà, hein, c'est ça. Mais parce que, voilà, pour moi, c'est le fondement philosophique, c'est je ne crois pas assez en ce que je crois et j'ai besoin que les autres confirment que ce que je crois a de la valeur. Sinon, et c'est que de l'estime de soi, tu vois. Au final, si on réduit ça à de la psychologie de base, c'est que de l'estime de soi. Et si t'as une estime de toi basse et instable, bah c'est mort, quoi. T'as besoin d'être confirmé par l'extérieur, tout ça, quoi.
Ouais,
donc, ça a été ma réflexion là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment l'épisode qui nous a donné le plus de. Sur lequel on a pris le plus de temps. Donc non, il n'y a pas vraiment de sujet. On va parler que de sujets qui nous. Le point commun, c'est ce qui nous énerve. S'il y a un truc qui nous met en colère, on va en parler. S'il y a un truc sur lequel on trouve. On dit souvent, tout le monde s'en fout, on parle de la dissonance cognitive. Qui est un terme qu'on entend beaucoup depuis quelques années. Donc, c'est les œillères qu'on se met pour. En fait, c'est notre cerveau qui déforme la réalité pour nous convaincre qu'on ne fait pas n'importe quoi. pour se dire, ok, toi, t'es paquet de cigarettes, c'est écrit fumez-tu, et tu dis, ah, je vais me faire un petit plaisir, je me fais une clope. Et en fait, tu crées plein de croyances, tu déformes la réalité, et en fait, pour te dire, je suis pas en train de m'autodétruire, parce que sinon, bah, en termes d'estime de toi, tu te dis, ok, je suis en train de me tuer, c'est complètement débile. Oui. Donc ton cerveau, il donne des trucs, parce que son taf, ton cerveau, c'est de faire survivre, quoi.
Oui.
Et surtout de confirmer ce que tu crois déjà. Donc si tu crois que fumer c'est un plaisir, bah lui il va dire ouais t'inquiète c'est un plaisir.
Ouais. D'ailleurs j'en ai besoin.
Vas-y,
me fait du bien du tout. Ouais. Okay.
Donc voilà, non, on traite les sujets qui nous passionnent et qui... Qu'est-ce qu'il y a des trucs qu'on a dit non
Un peu nous aussi, enfin.
Ouais, nous, par exemple, la religion, c'est,
oui,
c'est notre logo.
Mais le mantra de base de les sujets qui nous énervent, bah, on en parle. C'est un peu ça aussi.
L'autre point de rencontre sur ce qui nous énerve, bien sûr.
Et la religion, c'est un truc qui est...
Bah, parce que la religion, en fait, je crois qu'on n'a pas d'angle pour l'instant. On n'aurait pas d'angle parce que nous, on est plutôt athées. Moi, j'ai un côté anti-religion comme toi, c'est-à-dire sur le principe dogme, quoi, et sur le dogme et tout, ça me dérange profondément quand les gens me disent bah ouais, mais si je suis. Que ce soit l'islam ou la chrétienté, qui sont les deux religions que je connais le mieux parce que j'ai des proches qui sont là-dedans, alors que j'ai pas de proches juifs, par exemple. Mais ce principe de dire si je suis religieux, en même temps, il faut que je prenne tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien aussi, toutes les interdictions, parce que moi je comprends pas pourquoi il y a des interdictions, en fait ça me passe complètement au-dessus. Je dis normalement, c'est pour ça que le côté spirituel est beaucoup plus intéressant,
oui.
et que je peux discuter avec des gens qui sont dans la spiritualité alors que des gens dans la religion, c'est beaucoup plus dur parce que pour eux c'est logique de prendre les interdictions et le mauvais pour avoir le bon. Et je lui ai dit, pas du tout. C'est un self. Enfin, prends ce que tu veux. Qu'est-ce que tu t'en fous?
Ce qui te fait du bien.
Il n'est pas là, Dieu. Enfin, clairement, tu vois, je veux dire. Bon. Et c'est un système. Mais on n'aurait pas d'angle parce que le but, ce serait de dire, tu vois, il faudrait savoir où est-ce qu'on veut aller. Quand on parle d'un sujet, en général, c'est qu'on veut aller quelque part. Et là, en l'occurrence.
Nous, on aurait juste envie d'en discuter une heure à la rigueur.
Voilà. Plus dans un podcast. Ou alors, si, moi, j'aurais envie de dire, soyez jamais extrême. Mais ça ne veut rien dire.
Oui, mais c'est
débile.
C'est compliqué.
Ouais.
Donc il n'y a pas trop d'angle.
Donc on en parle entre nous.
Oui, c'est bien aussi. Ouais, mais nous, c'est pour ça aussi qu'on a vite pris un journaliste dans l'équipe. Hein, et Marc, c'est parce que c'est trouver un angle dans un objet audiovisuel, un média, c'est plus compliqué. Et un bon média a un angle. Et c'est justement ce que Marc nous a appris et nous a amené. Non, et tout le monde s'en fout. Et il est très très fort pour ça, pour trouver un angle justement. Et nous, à chaque fois, il nous casse les pieds avec l'angle. Il a raison.
Oui,
tu vois. Mais non, vas-y, on peut pas. Tu vois, par exemple, alors si, il y a un sujet qu'on n'a pas pu traiter, c'est la physique quantique.
Parce que, tu vois, avec
la brise, on se dit, je veux parler de ça, des trucs de ouf et tout. Il y a des trucs de ouf et auxquels je comprends rien, tu vois, et sûrement sur lesquels je manque plein d'informations, mais on voulait traiter ça. Et à chaque fois qu'on voulait, je crois qu'on a même écrit un épisode. Et Marc nous disait, non, les gars, on va pas parler de ça, on sait pas de quoi on parle, il y a pas d'angle et tout. On disait, mais si, c'est ouf, c'est ça l'angle, c'est ouf. Et du coup, on l'a jamais fait, ce putain d'épisode sur la physique quantique. Ouais. Et au final, je pense qu'il a raison, mais c'est une grosse frustration. Quoi. Mais c'est même pas parce qu'on se l'est interdit.
Mais
c'est
ça
parce
se trouve, il aurait été super bien, même sans angle. Juste avec un angle, c'est
juste
ouf.
Une petite vulgarisation.
Ouais, mais alors, ce truc, c'est que toutes les semaines, tout ce qui a été déjà dit est remis en question.
Ouais,
c'est un sujet compliqué. Et on voulait le traiter sous l'angle. Si on avait trouvé un angle, c'est la magie. Parce que c'est magique, la physique quantique. Si tu le regardes avec un œil un peu d'enfant, tu vois, il y a des trucs de ouf. Mais,
jusqu'à la fin, tu as un personnage qui lit les commentaires et qui va lire « Mais les gars, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais vous n'avez pas d'angle dans cette vidéo. »
Voilà, ça aurait été drôle. Mais je ne sais plus quel scientifique disait « Celui qui pense avoir compris la physique quantique n'a rien compris à la physique quantique. »
Oui,
voilà, c'est le seul sujet qu'on n'a pas pu traiter.
Okay. Ça m'angoisse complètement, la physique quantique.
Mais il sait qu'il y a une BD qui l'explique.
J'aurais pas pu regarder la vidéo. Ça m'aurait fait une crise d'angoisse, c'est sûr.
Eh bien, on va passer aux bols à questions, qui sont des gobelets à questions, mais bon, on appelle toujours ça les bols à questions. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit jingle de ton choix pour dire qu'on passe à cette...
Ok, c'est le bol à questions.
Wow.
Ah, du message, c'est toujours bienvenu. Bienvenue, parce que mon micro il s'est éloigné de moi. Non, c'est moi qui me suis éloigné.
C'est toi qui s'est éloigné.
C'est un objet.
Tu as ici des questions chill et ici des questions deep. Tu l'auras compris, des questions un peu profondes qui amènent au débat éventuellement et des questions chill.
Ok.
Détente quoi. Rien de.
Navo, pour se moquer de nous, dirait les questions chill c'est tu préfères lundi ou mardi.
Voilà.
Il s'est moqué de nous, on a failli la rajouter.
De nos questions. Ah, il est allé dans le deep.
Je prends le deep de ouf.
Bon, c'est agréable de faire ça pour nos auditeurs, dis donc.
Pardon, c'était pour faire un lien.
Ah.
C'est vrai que c'était deep, comme raclement de gorge. Alors, si tu pouvais revisionner un moment de ton passé, tu choisirais quoi ?
Ah, c'est un épisode de Black Mirror, ça.
Oui, alors.
Oui, quand il enregistre. Mais...
Ah, il est horrible cet épisode.
Ah, oui, c'est tout. Tu peux tout revoir ta vie.
Ah, ouais, pourquoi c'est ça? Elle revoit, il ou elle l'a trompé, je sais plus. Ah non.
C'est pas pire que ça. Non, c'est moi qui suis pire.
Je pense que c'est pire parce que ça. Attends, je pense que c'est pire que juste quelqu'un a trompé quelqu'un.
Non, je confonds avec. Il y a un film avec Robin Williams qui s'appelle Final Cut. Qui c'est ça. C'est beaucoup.
Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Black Mirror, c'est à la base, c'est un court métrage où en fait, t'as une implantation dans l'œil qui fait que tu peux filmer toute ta vie et en fait, à ton enterrement, c'est ça. Et Robin Williams, il joue le rôle d'un monteur. C'est un film sur un monteur et il a un ordinateur en bois. Ça déchire. En fait, tout son ordinateur est en bois et en fait, il monte un film pour les enterrements en fait. Et il projette les meilleurs moments. Oh. Et en fait, en faisant le montage d'un film, il se rend compte que le mec qui est dont on fait les louanges était un gros connard qui violait son enfant, tout ça.
Ah, yes.
Et donc, c'est une enquête policière sur ça.
Oh. Ah, ça a l'air fou. Mais l'épisode de Black Mirror, c'est bien une histoire de tromperie. Mais du coup, le mec se rend compte que il n'y avait pas eu de capote et du coup, l'enfant n'est pas le sien. Vous vous rappelez un truc comme ça?
Oui, c'est pour ça que je me dis ça va plus loin en général.
Ça va plus loin que juste une tromperie, mais c'était quand même.
Alors, juste revisionner, juste pour kiffer, revoir un moment
évidemment,
passé.
Mais donc évidemment, aujourd'hui, on a... Non, tu t'assois et tu revois. Cette cassette, quoi.
Un moment. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas beaucoup... Je me rends compte dans mon développement personnel, dans mon travail sur moi, qu'au final, j'ai pas énormément de souvenirs d'enfance.
Moi non plus.
C'est vrai ?
Du tout.
C'est chaud, je trouve, quand même.
Ouais, moi aussi. Mais ça va alors.
Ah, ça va alors.
Ah non, moi non plus.
Ah
c'est
bon
terrible.
De quand t'es petite ?
Non. Mon frère se rappelle plus de moments de moi quand je suis petite que moi.
Okay.
Il me rappelle des trucs et je suis là. Bah non, il est là. Bah si.
C'est ton grand frère ou ton petit frère ?
Mon petit frère
ton
en plus.
Petit frère,
ouais.
Donc, vous avez combien de différence ?
4 ans. Mais ouais, moi aussi, j'ai très très peu de souvenirs d'enfance.
J'ai des points clés, tu vois. Ouais. Quand tu travailles sur toi, tu te rappelles, t'as des souvenirs de trauma entre guillemets ou des trucs qui t'ont marqué et là donc t'as des points clés mais alors un souvenir de quotidien de mon enfance tu vois c'était quoi l'ambiance c'était quoi mon état émotionnel ça je me rappelle plus du tout
donc tu choisirais un de ces moments là pour essayer de voir un peu
De voir un peu plus pour essayer de me comprendre savoir comment j'en suis arrivé là où j'en suis et pas parce que toi même le passé proche un moment clé dans ma vie ça a été tout le monde s'en fout et donc ça a changé mon quotidien ça a changé mon rapport à moi, mon rapport aux autres aussi, parce que la notoriété, même si c'est une petite notoriété, ça, je vois que ça change les rapports avec les gens. Et quand déjà, à la base, t'es phobique sociale et que les relations avec les autres, c'est compliqué, et ben là, ça crée un décalage en plus, tu vois. Donc, y a une espèce de truc de... Comme si toute ma vie, ça avait été comme ça, alors que non, il y a eu différents états émotionnels, tu vois. Donc, c'est intéressant de se dire, ok, j'aimerais bien revoir comment c'était avant, juste pour me rappeler, pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Mais j'ai pas un moment particulier, mais ce serait plutôt dans l'enfance.
Ok.
Alors si c'est pour se faire kiffer, ce serait un truc avec ma sœur. Parce qu'avec ma sœur, on jouait beaucoup quand on était petit, on était super proches. Et je sais. On faisait des jeux débiles. On faisait des jeux débiles où on... J'avais un canapé dans ma chambre, un truc en angle droit comme ça qui pouvait se renverser. Et donc, on se mettait dessus, on se renversait en arrière et on passait la soirée comme ça à l'envers. Et ma sœur, elle marchait sur mon lit, elle escaladait la cheminée et on tournait comme ça autour de l'autre en se racontant des histoires, en inventant des histoires.
Adorable.
C'était un jeu récurrent.
On faisait ça tout le temps.
Mais j'adore les jeux d'enfants, ils veulent rien dire.
Il n'y avait aucun angle.
Parce que quel rapport avec ce canapé ? Enfin, tu vois, je veux dire, ça a l'air d'être au centre.
Ah, c'était au centre du truc.
Ouais,
on commençait par se basculer et ensuite on marchait autour.
Il y avait une organisation.
Ah, mais c'était,
trop,
c'était hyper précis, tu vois. Donc j'adorerais revisionner à ces moments-là, pour le coup. Juste pour voir l'absurdité de ce qu'on racontait.
Ça doit être ça se peut, c'est des histoires incroyables.
Ouais, je pense.
Mais plus probable, elles sont nulles.
Ouais, il y a des choses.
Elles n'ont pas de fil conducteur. On dirait qu'on était. Ouais, c'est bon.
Ouais, c'était un peu ça. Donc voilà. Et vous ?
Moi, je suis un peu comme toi. Bah, comme je l'ai dit, j'ai pas de souvenirs d'enfance, donc je me suis un peu dit ça aussi. Mais je crois, si je dis la vérité, je pense que j'aimerais revoir quand j'avais 12 ans, j'ai fait une colonie de vacances et j'ai vécu mon premier amour d'une intensité énorme par rapport à mon âge.
À 12 ans, ouais,
à 12 ans, mais vraiment, genre, ça m'a suivi longtemps. C'est-à-dire que très longtemps, j'ai pas reçu, je sais même, enfin, la vérité, je sais même pas si j'ai déjà ressenti ça, mais c'est par rapport à mon âge aussi. Ouais, c'est-à-dire que, en vrai, si j'avais le sentiment que j'ai eu à 12 ans, que je le vivais aujourd'hui, je pense que ce serait, l'échelle serait moindre. Mais à l'époque, c'était fou, quoi.
Puis le premier,
t'étais love d'un mono? Ouais,
non,
d'un mec de ton âge.
Ouais. Bah, il était un peu plus vieux, il avait genre 14 ans, alors que j'en avais 12, mais tu vois. Et du coup, j'aimerais revoir les moments qu'on avait passé, qu'on passait ensemble, parce qu'on n'était pas sortis ensemble, mais genre moi, j'étais amoureuse de lui toute la colo, et à la fin, lui, il m'avait écrit sur un miroir qu'il était amoureux de moi, et c'était trop tard, il était déjà parti. C'est en vrai extrêmement triste.
J'ai encore ce miroir chez
moi. Mais du coup, je... non, quand même, j'ai pas décroché le miroir de la colo, ça aurait été terrible. Non, et du coup, j'aimerais revoir ça pour... Parce que c'est un souvenir de sensation plus que de, ouais. Tu vois,
que de visu. Ouais.
Je sais pas, si ça me ferait plaisir, si ce serait triste.
Tu te rappelles à quoi il ressemble, le mec et tout, ou
c'est vaguement.
Ouais, voilà.
Vaguement, genre c'est vague.
Ouais, okay,
parce que j'ai pas trop de photos, parce qu'à l'époque, oh là là. Bah, et voilà pourquoi aussi je veux le revoir, parce que au-delà de ça, c'était une colo que j'ai adorée, j'avais des super potes et tout, et on avait des Kodak, les appareils photo jetables. Et la vérité, toute la pellicule est floue. Toutes les photos que j'ai faites de cette colo est floue.
Signe.
Et je l'ai quand même dans un... Chez moi, chez
dans
mes parents, il y a un album. Mais
un album
tout
flou.
Tout est flou. Il y a une photo pas floue avec mes copines. Une sur 24 photos peut-être.
Okay.
C'est terrible. Donc non, j'ai même pas sa tête.
Faut que tu te promènes dans la rue sans tes lunettes, peut-être tu le reconnaîtras flou.
C'est ça.
Ah, c'est lui.
Et voilà. Donc je sais pas. En vrai, de manière très égoïste, je pense que je voudrais revoir ça. Ça me ferait marrer.
Non, mais c'est cool.
Et toi? Qu'est-ce que tu regardes?
Bah, vas-y, une arrivée.
Putain, j'ai rien entendu.
Coucou.
Bonjour.
Moi, j'irai revoir un moment trauma de mon enfance où je me suis faisais harceler par une fille quand j'avais 4 ans et qu'elle m'a poussée contre un puits et qu'elle m'a cassé toute la mâchoire. Et j'irai revoir ce moment-là parce que je vois plus du tout la gueule de cette petite fille.
Pour te venger, genre.
Oui,
c'est un début de film d'horreur, de revenge movie. Genre.
Ouais, vraiment, exactement. J'irai dans un délire de revanche.
Souviens-toi le puits dernier.
C'est pas très sain, mais je voudrais absolument savoir ce qu'est cette fille aujourd'hui.
Et ça se trouve, tu découvrirais que c'est pas elle qui t'a poussée.
Que c'est toi.
C'est moi.
Ou alors que cette meuf, c'est une pote à moi. Enfin, imagine.
Ouais, ouais.
Bah, moi, c'est sa blague.
Enfin, ouais. Oui, c'est sa blague.
Moi, à la base, j'allais dire un truc misandre. Tu découvrirais qu'en fait, c'est un mec qui l'a poussé et elle, t'a poussé depuis toujours.
Ah oui, je revois l'image. Et en fait,
tu dézooms.
Tu dézooms.
Ouais. Ouais, non, c'était bien une nana, c'était une petite blonde.
Avec 4 ans, tu te rappelles d'avoir été harcelée à 4 ans?
Ouais. Bah, en fait, je me rappelle surtout de ce délire de mâchoire, quoi. Je me suis pété la mâchoire, donc c'est ça qui a. Et du coup, après, en recreusant, je savais que, genre, elle me harcelait à chaque fois. À chaque récré, je devais me cacher pour pas qu'elle vienne me.
C'est chaud, ça.
Ouais, c'est chaud de ouf. Et du coup, j'aimerais bien visualiser un peu, là. C'est trop flou, c'est beaucoup trop lointain, 4 ans, quoi. C'est vraiment.
C'est marrant, moi, il y a quelques années, parce que pareil, moi j'étais hyper harcelé à l'école, tout ça. Et j'ai retrouvé sur Instagram, enfin, oui, il m'a retrouvé, je ne sais plus, un mec qui me terrorisait, qui s'appelle David, vraiment qui me faisait flipper à mort. Et il m'a écrit pour me dire qu'il me présentait ses excuses et que tout ça, machin.
Waouh!
Et ça m'a fait un truc de ouf.
Genre,
je lui ai dit, mec,
du bien?
Merci.
Ah ouais.
Et c'est marrant parce qu'il est devenu coach de vie, il est hyper spirituel,
oui,
hyper
zen. C'est pour ça qu'il s'est remis en question,
probablement. Ouais. Et je le remercie parce que vraiment
Ça fait plaisir.
Ah ouais, ça m'a fait un bien ouf.
Mais faites-le, si jamais il y a des gens qui nous écoutent vraiment. Des bullies, des anciens bullies, parce que il y a beaucoup de gens qui racontent qu'ils ont été harcelés. On entend beaucoup moins de gens qui disent j'ai été harceleur. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des seuls trucs qui est appréciable chez Nino Arial, qui est un youtubeur humoriste, enfin qu'on apprécie peu, mais il avait fait une vidéo là-dessus où il disait que lui, il faisait partie des harceleurs justement. Et j'avais trouvé ça extrêmement noble et important à faire.
Grave.
Et faites-le, excusez-vous. Enfin, en vrai, c'est important. On en parle parfois sur les hommes qui font cette démarche-là envers leurs ex ou des filles avec qui ils ont été, de dire est-ce que j'ai été problématique ou je sais que je l'ai un peu été, je m'en excuse. Et en vrai, c'est toujours apprécié, je crois.
Ouais, lors du mouvement MeToo, il y a quelques potes à moi qui ont fait cette démarche d'aller vers un peu toutes leurs ex pour savoir s'ils ont été oui ou non problématiques ou alors s'ils l'avaient été, qu'ils sont venus s'excuser, etc. C'est quand même.
Je connais peu de meufs qui réagissent mal, c'est-à-dire à ça. Au final, c'est bienvenu parce que la plupart du temps, tant qu'on parle pas de viol, d'agression,
et des os,
pleine balle, tu vois.
C'était il y a 4 ans, mais des os.
Mais ceci dit, non, en vrai, même ça, il y a des trucs qu'on pourrait appeler vraiment la zone grise ou quoi, de bon, t'étais un peu bourré, est-ce que vraiment tu voulais, et machin. En fait, la plupart des meufs on n'a pas fait un grand cas, parce que malgré ce que pensent les anti-paroles qui se libèrent, on dit vraiment un millième de tous les problèmes qui se passent. Donc la plupart du temps, on va juste vous dire « Ouais, j'avoue, c'était relou, merci, et on passe à autre chose. »
Ouais, mais ça permet de faire un petit passage à autre chose.
Et c'est appréciable. Et donc pour les bullies, je trouve que le travail peut être fait aussi
mais
comme ça, c'est
mais
cool.
Mais c'est, comment dire... La prise de conscience qu'on a tous eu un comportement problématique un jour, c'est ça demande un sacré travail, tu vois. Faut passer le cap de la culpabilité. Et souvent, c'est pas le truc que... C'est pas toi, la dissonance cognitive, c'est tu te mets des œillères, tu dis non, mais c'est bon, moi je suis pas problématique, tu vois.
J'arrive pas à le comprendre, moi, ça. C'est un vrai... Parce que je le sais, mais moi je l'ai pas, ou alors j'ai pas senti quand je suis passée d'un truc à l'autre. Pour moi, j'ai aucun problème à dire bah là j'ai été problématique, là j'ai fait ça, j'aurais bien aimé pas le faire, j'ai eu des réflexions comme si je le ferais plus aujourd'hui, et en fait du coup comme c'est une sensation que je connais pas, j'ai du mal pour le coup à comprendre pourquoi pour les gens c'est si dur à faire.
Je pense que c'est relié
pour les hommes.
Oui, mais même non. Ouais. Moi, j'ai des potes blancs ou blanches qui ont vraiment du mal à dire qu'ils ont eu des comportements racistes ou qu'ils ont encore. Oui, un privilège.
Oui,
c'est sûr.
Non, mais oui,
et qu'ils
sûr.
Ont des comportements qui peuvent être un peu racistes, un peu problématiques et tout. Tu vois, c'est pas pour le coup, c'est pas spécial homme, même s'il y a beaucoup d'hommes qui vont l'avoir. Mais et j'arrive pas à le comprendre et du coup, j'ai du mal à argumenter parce qu'en fait, je me dis juste, mais moi, j'y arrive. Enfin, tu vois, je veux pas être égocentrique, mais un truc de.
J'imagine que c'est relié. En tout cas, moi, je sais que si je peux le faire aujourd'hui aussi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est assez facile de reconnaître que. Même reconnaître que t'as tort, tu vois.
Oui.
Et je trouve que ça fait tellement de bien. En fait, ce qui fait du bien, c'est d'arrêter d'essayer d'avoir raison. Moi, c'est ça qui m'a le plus transformé dans ma vie. Alors, ça, c'est l'œuf ou la poule, je sais pas ce qui a été. Mais parce que moi, avant, j'étais quelqu'un d'assez en colère. Et toi, je parlais du fait que j'aimais pas le féminisme. En fait, j'aimais pas toute forme de militantisme. Je trouvais que il me saoulait les gens militants, tu vois. Et pourtant, je suis issu d'une famille de communistes. Mon père siégétiste, donc j'étais un peu dans le rejet, tu vois. J'avais l'impression d'être celui qui sait sur certains sujets, tu vois. Moi, j'étais en fac de cinéma et je trouvais qu'il y avait des bons films et des mauvais films. Et je passais beaucoup de temps et je gaspillais beaucoup d'énergie à essayer de convaincre, justement, et à être en colère, tu vois, et à ne pas comprendre que les gens ne pensent pas comme moi. Et le jour où j'ai abandonné ça, ça m'a fait juste beaucoup de bien, en fait. Ça a été un énorme poids que j'ai laissé. Donc, je pense que ce qui m'a permis de le faire, c'est de, au bout d'un moment, d'être dans un environnement, pour dire un mot chiant, bienveillant, dans lequel il y a ce qu'on appelle la sécurité psychologique, c'est-à-dire tu t'entoures de gens et tu sais que quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, tu vas être soutenu, tu vas être écouté, tu vas pas être jugé. Et surtout, tu vas pas être jugé, tu vois. Et à partir de là, à partir du moment où tu te rends compte que,
t'as pas besoin de prouver.
Non, t'as pas besoin de prouver. Et là, c'est plus facile de se dire, j'ai été con, j'ai été ci, j'ai été ça. Si t'as pas cet environnement-là, t'es pas en sécurité, en fait. Et c'est le problème de sécurité. Et je pense que les gens qui tiennent leur position de... quand tu leur dis, là, t'étais un peu raciste ou t'étais un peu sexiste, non, en fait, parce qu'en fait, ils sont en sécurité. Ils peuvent pas baisser leur garde. Je pense que ça peut être lié à ça. Ça fait les gars, franchement, enfin les gars, les meufs, tout le monde, ça fait du bien de dire qu'on a tort. Ça fait du bien de dire qu'on a été con. Ça fait du bien de dire qu'on a été problématique. Donc, au-delà de faire du bien à la personne avec qui tu as pu être bully ou quoi que ce soit, ça va vous faire du bien à vous aussi.
Ça va vous rendre humain.
Aussi.
Tu veux piocher une deuxième question ?
Deep. Allez, deep.
Je crois que c'est...
je crois que c'est le thème. Est-ce que c'est pas celle que... Non.
C'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Et pourquoi ?
Tellement intime.
On compte pas devant les films, tout ça. Hein.
C'est comme tu veux, c'est ce qui a compté pour toi. Enfin,
j'ai eu une année, 2021 assez triste, mais dans le bon sens.
On a dit que c'était le podcast de la joie. Hein.
Ouais. Mais dans le bon sens, hein. Oui. C'est joyeux quand même.
Oui, parce qu'au final, c'est une année qui m'a beaucoup construit. Relationnellement parlant et sentimentalement parlant, j'ai eu une année triste amoureuse, en fait, on va dire, parce que j'ai réessayé après 7 ans. J'ai eu 7 ans de célibat et de ok, je découvre pour la première fois ce que c'est que d'être célibataire et je découvre ce que c'est que de séduire et de pouvoir de ne pas tomber amoureux de la première personne qui te porte de l'intérêt.
Ce petit si rire. Vous aviez vu sa tête, c'était très intéressant sur le visage. Il s'est passé beaucoup de choses.
Et du coup, j'étais un peu dans le rejet dans le rejet. Enfin, en tout cas, je voulais pas être en couple, me construire tout ça. Je voulais juste batifoler. Ce qui m'a amené à avoir peut-être des fois des comportements justement problématiques. J'ai ghosté, tu vois. J'ai fait des trucs. J'ai des problèmes de communication. J'ai un peu merdé sur des relations, tout ça.
C'est horrible, Ghost.
Ouais, je sais.
Oui, bah.
Ça arrive à tout le monde le fait. Je l'ai déjà fait aussi. Ouais. Mais je dis quand même que c'est horrible.
Non, c'est horrible. C'est horrible.
C'est un des pires trucs.
Ouais, grave. C'est pire. Oui.
Et pire que par exemple.
J'adore faire ça.
Ouais, j'adore. Pire que par exemple si je te jette des cailloux toute la journée dessus.
Non-stop.
Tous les jours. C'est pire d'être gossé ou des cailloux.
Non, c'est pas pire. T'as encore gagné. C'est bon, Camille. Allez.
Bravo.
On passe à autre chose.
Et donc, il y a un an, j'ai fait une rencontre et ça a été le coup de foudre, tu vois, vraiment le coup de foudre. Tu poses ton cerveau par terre et tu cours. Mmh. Et ça a été trop, au bout de deux semaines. C'est genre, oh, trop bien, on est des âmes sœurs, on va vivre ensemble, et machin. Et ça a fait...
Ça fait souvent ça.
Enfin, ça n'a pas fait... Ça fait dans ma gueule. Mmh.
T'as pris feu comme dans l'église, quoi.
Exactement. Il était là, le curé, d'ailleurs. c'est eu un ascenseur émotionnel de ouf. Et donc, j'ai passé plusieurs mois dans une profonde tristesse. Et j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Puis ça a été mieux. Et puis j'en ai une deuxième. Et puis j'ai pleuré. Et puis ça a été mieux. Et puis j'en ai une troisième.
Ah ouais.
Et donc la dernière fois que j'ai vraiment pleuré, c'était cet été. Parce que, histoire de cœur. C'était de l'accumulation de... Je me disais, ok, c'est maintenant, je pense que là, je suis prêt à me relancer dans une relation amoureuse. Et à chaque fois, je me disais, ce coup-ci, c'est bon, j'ai bossé sur moi maintenant, ça fait 6 ans que je suis en dev perso, que machin, je construis, je déconstruis. C'est bon, c'est maintenant. Et en plus, je le vois, c'est aligné, c'est pas du tout. C'est pas maintenant.
C'est pas fini.
Et 3 fois de suite, ça m'a fait, en fait, non. Et en fait, à chaque fois, je changeais de stratégie. Je me disais, oui, en fait, ok, c'est bon, je vois ce que j'ai foiré. Je vois les cycles qui se répètent. Là, je vais changer de stratégie. Donc là, c'est bon. Ah non, c'est pas bon.
Ça marche pas.
Pas du
de
tout.
De se faire des modes d'emploi non. Pour l'amour et tout.
Ouais, pour l'amour,
c'est, je crois qu'il n'y a rien à faire. Et jusqu'au bout de la vie, hein, c'est terrible. Tu peux faire toutes les stratégies du monde. Moi aussi, j'ai l'impression d'être dans ce truc-là depuis des années, de me dire, allez, je fais pas comme avant.
Ouais.
Je fais exactement
je me rappelle
l'inverse.
Qu'est-ce que j'avais
je me
pas
détache
fait,
de ce truc-là. Ça, je m'en fous. Ça, c'est terminé. Ça, je vais
faire
un peu plus.
Et il y a une nouvelle chose qui apparaît.
Et puis, il y a un nouveau truc. Qui apparaît, et puis il y a surtout l'amour qui prend le dessus, et tu redeviens une grosse merde, malgré ton mode d'emploi. Mais oui, je vois très bien. Donc c'est des peines de cœur qui t'ont causé tes dernières grosses tristesses de crise de larmes.
Mais que je remercie parce que ça m'a...
Ça forge.
Ouais, ça forge de ouf. Mmh. Et là, toi, au début, je disais, je vais super bien en ce moment, et c'est vrai. J'en parlais ce matin avec ma psy, juste avant de venir, et je suis dans une période d'acceptation totale de tout. Qui passe par... moi, j'étais un peu pendant ces 7 ans où j'étais célibataire, j'allais à droite, à gauche, puis je me disais, c'est cool, je profite de la vie. J'avais cette espèce de quête, j'ai cette croyance de la quête de l'autre, et de ton double, et de la personne qui va partager ta vie, elle existe, tu vois, et on se reconnaîtra parmi une foule de millions de personnes. Je suis en train de lâcher ça, et ça me fait du bien. Et même un truc un peu résigné, dans le sens, si ça arrive pas, c'est pas grave.
Accepter que peut-être parfois seul, on est complet, déjà.
C'est exactement le mot qui est sorti ce matin avec ma psy, complet. Le revers de la médaille, c'est de faire attention de ne pas devenir de ne plus laisser personne entrer, tu vois, et de se fermer à tout truc. Donc c'est l'équilibre, tu vois. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, ça me fait du bien de plus être aux aguets et d'attendre et de me dire, ok, c'est maintenant, je suis prêt, moi je suis prêt, hein. Pas prêt du tout, mec. Donc, ouais, c'était ça mon dernier.
Okay. Et toi ? Moi, c'était mercredi dernier, précisément. J'ai pleuré absolument toute la journée parce que j'étais en SPM de ouf. Mais genre.
S'il y en a qui ne connaissent pas, syndrome prémenstruel, c'est la vague d'émotions, d'hormones, de douleurs qui peut arriver
semaines,
juste avant les règles.
10 jours, une semaine ou 3 jours avant les règles.
Ou 28 jours avant les règles. C'est pas dire ça, ça ne s'arrête jamais.
Parce que moi, c'est vraiment à peu près 10 jours.
Ah, mais c'est l'ovulation, en fait.
C'est ton ovulation qui te met en...
Ah ouais, peut-être. Qui me met en PLS. Hein.
Écoute ton cycle.
Écoute, j'ai mis une appli, il n'y a rien qui va. Enfin, vos règles sont dans 3 jours, elles sont 8 jours après, non, je comprends rien.
C'est de la merde.
C'est de la merde.
Je déconseille. Avoir ses règles, je déconseille.
Ah, avoir ses règles, globalement, je déconseille.
C'est pour ça, moi, je ne le fais pas.
On risquerait de s'énerver en cette fin de podcast si on parle vraiment de ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai pleuré toute la journée pour... zéro raison valable. Je me regardais dans le miroir, j'étais là, j'ai plein de boutons, je suis vraiment mais hyper moche, je fais de la dysphorie de ouf quand je suis en SPM, je me trouve mais ignoble, genre, je suis là mais les gens doivent se dire que je suis horrible, genre je me regarde dans le miroir, je me dis mais c'est pas possible, hier j'étais super fraîche, là je suis dégueulasse. Et heureusement que j'ai commencé à capter que c'était le SPM avec les années, et pouvoir me dire moi-même devant le miroir au bout de 5 minutes, ouh, ok.
Non, tout va bien. Quand ça arrive, tu te dis pas, c'est un travail pour se dire.
Déjà, parce que là, on en parle aujourd'hui. Là, je dis ce que c'est en me disant qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Mais déjà, on reçoit encore des messages de gens, de nanas, surtout qui savent pas ce que c'est. Parce que, à rigueur, si les mecs savent pas, même si c'est bien qu'ils sachent aussi, parce que ça fait partie de la vie.
Ah, bah oui, quand même, ça peut faire
quand ils sont en couple, ou leur sœur, leur mère, leur copine, tout ça.
Mais c'est un vrai truc, hein.
Mais c'est un truc qu'on n'a pas appris à prendre en compte dans nos vies, de toute façon. Non. Moi, je me souviens, pendant des années, j'avais envie de me flinguer. Enfin, l'avant-veille de mes règles, j'étais là, j'ai plus envie de vivre, en fait. Ça sert plus ou moins à rien.
Trigger warning. Ça t'atteint fortement, psychologiquement.
J'ai mis à comprendre, tu vois.
Oui, puis plus, la société te dit, oh, ça va.
Oui, c'est bien sûr.
Oui, exactement. Et puis ton entourage peut te dire, bah, ça va, il n'y a rien de grave. Et tu
ils vont dire, c'est bon, mais non, t'es pas moche. Voilà.
Ouais, exactement. Ah bah moi, c'est vraiment ce qu'on va me dire. Bah non, t'es pas moche, enfin, t'es comme d'hab. Okay.
Bah, en t'engueulant en plus, t'es. Ouais, ça va, merde.
Comme d'hab, t'es comme d'hab et du coup, tu te trouves horrible.
Donc d'habitude, tu es toujours horrible. Je vous conseille d'ailleurs le compte SPM Ta Mère, qui est vraiment un compte dédié à ça sur Instagram et qui a aidé plein de personnes qui ont la règle, enfin vraiment à se dire, ah, c'est pour ça que j'ai envie de me suicider tous les mois.
Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Ouais. Mais on a juste au moins on peut mettre des mots sur
et même entre copines on peut se dire, enfin j'ai une pote qui me racontait qu'elle avait une pote qui a un gros SPM et chaque mois elle remet l'intégralité de sa vie en question, mais genre c'est fort, elle a vraiment, elle se réveille, il faut qu'elle quitte son taf, qu'elle quitte son mec, il faut absolument tout comprendre. Exactement. Et donc ma pote lui dit, chaque mois c'est le SPM, tu ne prends pas de décision hâtive, on en reparle demain, parce qu'elle est vraiment à deux doigts de démissionner, de quitter son mec, quoi.
Et du coup c'est pendant 10 jours t'as ça ou c'est juste
non c'est jours. Enfin moi ça va être genre un ou deux jours, ouais, okay. C'est un pic. Mais bon, j'imagine qu'il y en a, ça doit être une semaine non-stop avant les règles. C'est tellement variable. Il y en a qui l'ont deux jours avant.
Il y a tellement d'études dessus, on sait très bien cette chose. C'est...
Plein de solutions nous sont proposées, et puis on sait que la recherche pense qu'à ça. On est tranquille.
Attends, c'est... Macron, il va mettre des moyens. Hein.
Bah, les femmes, c'est sa cause. Donc,
C'est sa cause principale. Voilà. Hein, donc,
évidemment.
Voilà, quoi,
évidemment. Ben moi, la dernière fois que j'ai pleuré, puisque vous me demandez,
mais oui,
c'était logique que ce soit toi qui
C'est parce que en ce moment je fais de l'EMDR. C'est une thérapie, une forme de thérapie. J'y suis allée parce que j'ai des gros problèmes de sommeil et d'endormissement. Et puis en fait, comme finalement c'est une psy en face de toi, je lui ai ouvert tous mes bagages parce que j'ai fait beaucoup de thérapie. Donc s'il y a une chose que je sais faire, c'est expliquer toutes mes problématiques. Ça c'est bon, je sais très bien faire. Mais
tu
vraiment
le fais
très bien.
De moins en moins de temps maintenant.
Ça c'est bon, tout va bien, je sais faire. Je sais pas comment régler, mais tout ça, mais je sais
mais
très bien.
Donc bien,
là, je lui ai donné
bien.
Tous mes bagages et du coup, ce qui fait qu'on ne travaille absolument pas sur le sommeil, même si peut-être que ça va être une clé à un endroit. Mais et donc, pendant la séance de MDR, je suis là, les yeux fermés, à taper sur mes jambes pour faire et les larmes coulent en continu. Alors même que je me trouve pas spécialement réceptive, mais je me dis, je suis quand même que en train de pleurer, il doit y avoir un truc qui se passe. Voilà. C'est un peu de l'ordre de l'intime, ce qui s'y passe, donc je vais pas forcément tout raconter, mais il s'agit beaucoup de moi enfant, et je me rends compte que la petite fille Camille,
elle a pris cher.
Je pense qu'elle était pas, elle a construit beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de problématiques que j'ai aujourd'hui. Je pense que je les ai construits très tôt. Et quand, tu vois, on parlait de ne pas avoir de souvenirs d'enfance, quelque part, ça m'embête aussi. Et en même temps, ça doit pouvoir expliquer. Je me dis comment...
Je pense que c'est un système de défense. Voilà. Hein, c'est ça. Il dit non, je regarde pas là, regarde pas là.
J'ai très tôt mis beaucoup de systèmes de défense en place. Et c'est beaucoup de travail, quoi.
Et ça marche le MDR
j'ai fait que deux séances, là. Okay. Donc, je peux pas pour l'instant...
Non, mais si déjà, ça te déclenche émotionnellement des trucs forts... Oui.
Après,
pendant la séance, c'est que...
Voilà. Après, c'est difficile parce que ça demande d'aller te remémorer des choses. En tout cas, il y a plein de façons de faire de l'EMDR, je crois. Donc, je ne dis pas la vérité ou l'ultime façon. Mais moi, je n'arrive pas à visualiser des choses dans ma tête. Donc, ça me coûte beaucoup d'énergie d'aller chercher un souvenir. Moi, il faut que je sois sur une photo très précise. Ou, tu vois, au début de la séance, elle me dit visualise un contenant.
Oui, je vois votre verre parce que je venais de la voir boire un verre et je pouvais, elle me dit ah, il faudrait que ce soit plus gros et avec un couvercle. Alors, j'étais là, je cherche dans mon appart, tu vois, je ferme les yeux et hop, je prends la box, enfin un truc très précis. Et du coup, ça, c'est très difficile. Donc, je pense que ça ralentit un peu le process.
Ouais, t'as besoin de t'agripper à du réel.
Complètement. Je peux pas créer, enfin, c'est très difficile et donc pour le MDR, ça freine un peu. Mais je peux pas encore dire c'est super. Je sais pas.
Parce que moi je sais que j'avais essayé et ça m'avait pas convaincu. Après, en fait c'est le thérapeute qui m'avait pas convaincu. J'étais avec un problème et j'ai l'impression qu'il me jugeait.
Ah bah oui, d'accord.
C'est mort. Et c'était un homme et du coup de base c'était pour moi c'était compliqué. Sans le vouloir, toutes les thérapeutes que j'ai vues c'était des femmes, pratiquement toutes. Et moi ça me rassure en fait. Si j'ai un homme en face de moi, c'est chaud.
Ouais.
Et tu connais l'IFS ?
Non.
Alors, c'est une autre technique que j'ai testée moi justement cet été quand j'étais pas bien là. Parce que moi quand je vais pas bien, je pars en croisade. Je dis ok, je vais tout faire. Et j'ai entendu parler de l'IFS, donc c'est un truc qui vient des États-Unis, s'appelle Internal Family System. Et en fait, c'est de la constellation familiale, mais que tu fais tout seul. Et en gros, c'est beaucoup de visualisation aussi.
Ouais.
Donc c'est
pas fastoche pour moi.
Non, c'est peut-être pas facile. Ouais. Mais en tout cas, moi ça m'a pareil. J'ai des litres et des litres et des litres. Et en gros, c'est Tu vas faire discuter des parties de toi. Et j'ai fait une vidéo l'année dernière où il y a mes émotions qui se parlent. Et c'était en fait une de mes séances d'IFS que j'ai claqué directement en scénario, tu vois. Et donc, c'était ma colère qui faisait un câlin à ma tristesse. Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je continue aujourd'hui quand je vais des passages émotionnels un peu compliqués. Je discute avec mes parties. Et ça aide de ouf.
C'est parti, il veut dire ses émotions.
Je discute
avec mes
parties.
Elle s'appelle Clotilde. Ça va bien se passer.
Non, ça papote.
Non, pleure pas.
Une petite discussion avec
ses parties.
Les gens qui disent mes parties.
C'est, oui.
Tu m'as fait mal aux parties.
Ça sera le nom de mon autobiographie. Je discute avec mes parties.
Et all right, on touche à la
tout
fin
à fait deep.
Ouais, de ce podcast qui était tout à fait deep, intense
et joyeux.
Enfin, nous, on a passé un bon moment.
C'était plutôt joyeux.
Hein. Ouais, très intéressant. Est-ce que pour finir, tu as un petit conseil de ce qui se fait beaucoup dans les podcasts, un petit conseil culture ou des conseils, parce que nous, comme on aime bien râler, on peut complètement aller vers ça, même si c'est la joie et tout. Bon, voilà.
Oui.
Quelle qu'elle soit, une œuvre, musique, podcast.
Venez voir le spectacle et tout le monde s'en fout. J'en profite.
On va faire la promo après. Mais vas-y, bien sûr.
Non, un petit conseil culture, qu'est-ce que je consomme en culture aujourd'hui?
Si tu veux qu'on commence pour te laisser le temps de réfléchir, on peut.
Ouais, allez-y, faites ça, comme ça je réfléchis.
Justine, est-ce que toi ou moi, on parle de Licorice Pizza?
Bah toi surtout.
Moi surtout. Alors, je suis allée voir, Ah non. Ah non, j'aurais bien voulu parler d'autre chose, parce que j'aurais bien voulu conseiller, en fait par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, j'aurais bien voulu conseiller le livre de Thomas Messias. Ou Messias, en plus à chaque fois il dit son nom dans le début des podcasts et j'arrive pas à savoir si on prononce le S, qui a un podcast qui s'appelle Mansplaining, que j'adore, qui est un podcast qui parle de cinéma et avec le regard qu'il a aujourd'hui sur les films qu'il a pu aimer et des problématiques, grosses problématiques qu'il peut y avoir dedans. Donc le podcast d'une part est hyper intéressant et il a sorti un livre qui s'appelle À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine. Et donc, par rapport à ce que tu disais en début de podcast, c'est extrêmement intéressant à lire.
Le boys club et tout.
Ça déconstruit le boys club. Et pourquoi les amitiés masculines peuvent être toxiques et le sont souvent. Et pourquoi ça freine beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous invite à le lire particulièrement si vous êtes un homme. Parce que moi, je l'ai lu et je me suis juste dit, voilà, c'est génial. Ça me donne des arguments, à la rigueur. Mais je trouve que c'est à lire particulièrement si vous êtes un homme, si vous avez...
Un groupe de potes
que vous trouviez ça toxique ou pas du tout. Je pense que c'est hyper intéressant de lire ces mots-là.
Ok. Voilà.
Et donc j'ai détesté Licorice Pizza, le dernier film de Paul Thomas Anderson, que je trouve surcoté, qui est juste un film pour que les critiques de cinéma se branlent entre eux.
Mais moi j'aime pas trop Paul Thomas Anderson.
Non, c'est un cinéaste pour les critiques de cinéma et pour les écoles de cinéma.
Qui est d'ailleurs très bien critiqué, ce film.
Complètement bien critiqué. C'est vraiment pour les intellectuels et les élites qui vont dire « c'est vraiment une belle œuvre.
On n'a rien compris, ça va être génial. »
Alors là, pour le coup, non, tu comprends pas rien, tu comprends juste tout en 5 minutes. Il y a pas le scénar, c'est
un post-it. Et quand même, tu comprends un peu rien. Parce qu'il y a des liens,
il y a de la temporalité. La temporalité est éclatos. Enfin, vraiment, tu comprends pas combien de temps il s'est écoulé.
Oui, c'est un peu de la branlette. C'est juste extrêmement beau. C'est juste ça. Quoi.
Ouais. Des fois, être extrême, faire des trucs pour le beau, c'est...
Oui,
mais
bon, 2h15,
je suis pas contre, mais 2h15, voilà, exactement. J'aurais aimé ça en 1h15, et j'en aurais pris plein les yeux, mais là, 2h15, au bout d'un moment, t'en prends plein là...
Bah quoi ?
Il y a pas de...
C'est le basket, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai, moi? Oh là là, j'ai rien vu de transcendant dernièrement. J'ai rien lu de transcendant. Je suis pas très transcendée là, artistiquement.
On se sent pas transcendée là.
Ouais, ça m'énerve un peu, je dois avouer.
Un album de musique?
Non, même, je sais pas. Personne m'a convaincue là. Sortez des bons albums là. Je suis horrible. Non, j'ai un déconseil. C'est ce film surcoté Netflix, Don't Look Up, que vous avez peut-être vu.
Ah, je suis d'accord.
Tu le déconseilles?
Alors,
tu le conseilles?
Je trouve ça génial que ce film existe. Et je trouve ça génial que ce film fasse autant de bruit. Je trouve qu'on en a besoin. Mais je te pique complètement.
Non, mais je suis intriguée.
Moi, c'est juste en termes de technicité de scénario. En fait, je l'ai regardé parce que tout le monde me disait faut que tu regardes ce film. Et au bout d'une heure et demie, je sais plus, j'ai arrêté parce que ça me saoulait.
D'accord, tu l'as pas fini.
Au final, je me suis forcé à le finir pour me dire non, regarde jusqu'au bout quand même. Et en fait, c'est juste, je suis sorti du film parce que je l'ai pas trouvé crédible.
Mais il est complètement pas crédible.
On est d'accord.
Sauf que, quand je dis ça, donc j'ai fait ma petite critique sur Instagram et il y a vraiment la moitié des gens qui sont « Mais t'as trop raison, je suis trop d'accord. » Et il y a une autre moitié, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est ultra...
C'est clivant.
C'est complètement clivant, qui me disent « Mais oui, mais c'est justement ça, ça représente le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec Donald Trump et les gens qui... » Et tu fais genre « Mais oui, mais du coup, je m'en fous de voir le monde dans lequel on vit aujourd'hui. » Enfin, moi, c'est plus ma sensibilité qui a pas du tout accroché à ce film qui est ultra, ultra caricatural. Et du coup, tous les personnages sont extrêmement caricaturaux et je n'accroche à rien.
Ce que je dis.
Je peux voir une critique du monde, je la vois déjà.
Parce qu'en fait, on m'a dit, mais si, c'est possible, regarde, c'est même pire que la réalité. Je dis, non, mais je dis pas que ce film manque de vraisemblance.
Oui, voilà.
Au contraire, je pense que la réalité est même bien pire que dans le film.
Ouais,
juste, ce n'est pas crédible que tout le monde soit teubé.
Ouais. Zéro subtilité.
Je sais pas si vous avez vu Idiocratie. Parce qu'il est beaucoup comparé à ce film-là.
Non, justement.
Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein, c'est de la grosse comédie potache. Mais moi, quand je l'avais vu, je me dis, ah ouais, c'est un bon film d'anticipation quand même. Le concept de base, c'est qu'il y a un mec qui se fait cryogéniser et il se retrouve projeté dans le futur où tout le monde est teubé. Et
oui,
c'est le concept.
C'est le pitch de départ.
C'est le concept de base. Et donc, t'acceptes que tout le monde soit teubé.
Dans
Don't Look Up.
Il n'y a pas un personnage qui se détache, qui détiendrait la vérité. On va dire que c'est la nana, mais
mais surtout personne ne...
On la ridiculise.
C'est vraiment au gouvernement, personne n'y croit.
Et les personnages féminins sont insupportables. Enfin, ça se voit tellement que c'est réalisé par un mec. Enfin,
est-ce que prendre une femme teubée dans le rôle de la présidente, est-ce que c'est judicieux?
Teubée est chaudasse.
C'est une chaudasse.
Ça parle que de sa chatte.
C'est très agaçant.
Je trouve que c'est
extrêmement agaçant
de faire ça.
Ouais. Et puis elle, du coup, Jennifer Lawrence, d'en faire pardonnez-moi le terme, mais une hystérique. C'est tout. Elle ne joue que ça. L'hystérie. On a compris que personne ne l'écoutait, mais du coup, même nous, spectateurs, ça ne nous donne pas envie d'être pote avec elle. Lui, Leonardo DiCaprio, on sait pas pourquoi, ça devient un gros connard d'un coup, je sais pas. Il se tape la journaliste, il a plus de femme, il lui dit va te faire foutre, et puis il revient vers elle. Enfin, c'est un film Netflix, quoi, encore une fois.
Mais c'est le problème des films Netflix.
Un peu fini avec le Derch.
Je pense qu'ils ont pas le temps.
Prenez-le.
Casting,
faites un peu moins de
budget,
prenez un peu plus de temps. Oui, voilà.
Après, le pitch est quand même.
Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est important qu'il y ait des films comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le déni, qui savent même pas que ça existe.
Oui, mais du coup, je ne sais pas si ces gens-là, en voyant ce film, se disent ah, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que tu vois ce film et tu dis ah, MDR.
C'est comme tout.
Tu vois, je ne sais pas
qu'est-ce qui va rester chez les gens ou pas.
Ouais.
Et donc, tu avais un conseil.
J'ai un petit conseil. Ça fait un moment que je le donne parce que je ne l'ai toujours pas fini. Mais je suis en train de lire le dernier Mona Chollet, Réinventer l'amour.
Okay.
Je me prends des bonnes baves dans la tronche.
Ouais. Okay, cool.
Donc elle explique comment le patriarcat a bousillé les relations hétérosexuelles.
Oui.
Et alors moi ça me fait du bien de lire des trucs modernes et actuels qui ne remettent pas en question l'hétérosexualité, mais la monogamie et le couple plus ou moins classique, tu vois. Parce que moi j'ai évolué beaucoup dans des sphères avec des polyamoureux, des gens qui remettent en question les relations. Qui déconstruit des relations, et donc je suis rentré dans une phase de culpabilité, de me dire ok, donc ça veut dire qu'il faut que je déconstruise mes relations, ça veut dire qu'il faut que je sois polyamoureux, ça veut dire que tu vois...
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Et je me disais, mais moi...
Peut-être pas,
en fait. Et ok, c'est cool, Mona Chollet te dit, non, mais moi, en fait, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire les relations hétéro classiques, de base. Et c'est vraiment cool, et je m'attendais pas à ça en l'achetant. J'ai vu Réinventer l'amour, je fais ça me parle, j'ai envie de voir. Et en fait, elle te fait surtout un espèce de d'état des lieux, de constat de comment les femmes galèrent depuis toujours. Et donc,
Ok.
Je suis désolé. Non mais c'est genre c'est
ok, je vais le lire parce que j'ai adoré Sorcière. J'ai pas aimé Beauté fatale d'elle.
J'ai vraiment pas lu, c'est le premier que j'ai lu d'elle. Donc,
Sorcière est intéressant. Ouais, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Ouais. Beauté fatale est plus du tout d'époque en fait. Il date de 2014 je crois et c'est plus honnêtement à mon goût c'est plus lisible aujourd'hui.
Ok.
À part trois punchlines, le reste c'est pas lisible. Mais du coup je suis.
Ouais non c'est tu. Tu ne dois peut-être pas apprendre grand-chose. Mais si, c'est super intéressant. Elle te fait le lien vraiment entre. Elle te fait le lien sur la sexualisation et l'érotisation de la faiblesse de la femme, tu vois. De ce qu'on a mis en scène de la faiblesse de la femme. Elle te démontre que ça influe dans tout. Elle va même jusqu'à dire que. Parce que l'argument des masculins, c'est souvent mais les femmes, elles sont moins musclées, elles ont moins de musculature. Mais en fait, ça viendrait du sexisme de base. Okay. Et c'est un truc, tu vois, qui a découlé. C'est qu'une théorie, mais je trouve ça hyper intéressant et complètement plausible, quoi.
Ok, mortel. Tout à l'heure, tu as fait petite allusion au spectacle et tout le monde s'en fout.
Oui.
Ça y est, c'est le moment.
C'est bon, c'est maintenant. Tu es sur scène. On parle de moi.
Tu es sur scène en ce moment, sachant que ce podcast va probablement sortir dans deux semaines, trois semaines.
Oui,
mais tu seras encore. Je suis en tournée.
Qu'est-ce que je vais dans deux semaines? Là, je vais être où? Je vais être à Maronne, je vais à Bruxelles. Je vais.
De toute façon, toutes les dates sont où? Sur le site,
sur nos réseaux sociaux, on a tout. On est en train de voir pour peut-être, j'espère, rejouer à Paris entre mai et juin, ça serait cool.
Ok.
Donc.
On viendra direct.
Bah, grave!
Si vous voulez savoir, bah vous suivez et tout le monde s'en fout. Il y a un Insta et tout le monde s'en fout ou c'est
Il y a un Insta, il y a les deux. Il y a mon Insta perso. Okay.
Donc, Axel Latuada en perso et tout le monde s'en fout.
Et tout le monde s'en fout.
Sur YouTube,
sur
Insta.
Sur Facebook, sur Insta.
TikTok ou quoi?
Moi j'ai un TikTok, moi je me suis mis à ça.
Ouais, je me suis mis à ça.
Vous êtes regardés tels deux énormes boomers là.
Ouais, vraiment.
C'était très rigolo à regarder.
Deux yeux.
Vas-y, on est des boomers.
T'as un TikTok ou quoi? Ouais, j'en ai un. Wink, wink.
Je me suis mis à ça, genre tout.
Attends, mais j'ai appris il y a pas longtemps que les gifs c'était un truc de boomer.
Ouais, ça y est.
Vous avez lu cet article sur Le Monde?
Non, mais en fait c'est parce que l'article sort que ça va le devenir, mais avant je pense pas que ce soit le cas. J'en sais rien, je sais pas.
Je n'arrêterai jamais les gifs.
Bah non. Bah de toute façon, les boomers c'est nous maintenant, bah assumons. Bah, tant pis.
C'est clair.
Ok, bah merci beaucoup d'être venu. On est ravis de t'avoir accueilli. C'était hyper intéressant comme discussion et joyeux,
car on
va bien.
Et on va
Rappelons-le.
Bien.
Rappelons-le.
Ouais. On va bien. On prend soin de nous. Ouais. Prenez soin de vous également.
C'est pas grave d'aller mal.
Non.
Et on va dire merci bye aux auditeurs et aux auditrices.
Puisque c'est notre gimmick de fin.
C'est notre gimmick à trois, on le dit.
Un, deux, trois.
Merci bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.